I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Ce soir, nous faisons le point sur les relations entre les États-Unis et l'autorité palestinienne. La Maison-Blanche a pris une série de mesures contre l'autorité palestinienne, dont la dernière en date est la fermeture de la mission palestinienne dans la capitale américaine. Les États-Unis reprochent notamment aux dirigeants palestiniens leur refus de reprendre les pourparlers de paix avec Israël. Quelle est la stratégie de l'administration Trump au Proche-Orient? Quelles conséquences sur le processus de paix entre Israël et Palestine? Nous attendons vos questions et commentaires. Pour participer, vous pouvez appeler dès maintenant le 001 202 205 26 33. Je répète, le 001 202 205 26 33. Et pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Notre expert ce soir, c'est Brett Bruen, président de Global Situation Room à Alexandria, ici près de Washington DC. Bonsoir et merci d'être avec nous, Brett.
Oui, bonsoir. Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Alors, l'administration américaine a ordonné cette semaine la fermeture de la représentation de l'Organisation de Libération de la Palestine à Washington. Comment expliquer cette mesure, Brett Bruen?
Bon, ça fait partie d'une série des mesures que l'administration Trump a pris contre le gouvernement palestinien. Je crois que ça fait partie d'un effort pour mettre plus de pression sur les leaders. Et aussi, on a vu un changement assez important vers l'Israël en ce qui concerne le rôle que les États-Unis a joué dans les négociations et la crise entre Palestine et Israël.
Alors, vous dites peut-être pour accroître la pression. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les États-Unis voudraient accroître la pression?
Je crois que la politique de l'administration de Trump, c'est de trouver une solution plus favorable à l'Israël. Et puis, que pour l'instant, ils ont essayé de changer plusieurs aspects des réalités sur le terrain. Par exemple, ils ont pris la décision de ouvrir l'ambassade à Jérusalem avant de même avoir des négociations entre les deux parties.
Alors, Washington reproche, en tout cas c'est la raison officielle annoncée, reproche aux dirigeants palestiniens de ne pas engager des négociations directes avec Israël et aussi de refuser de discuter avec le gouvernement américain au sujet des efforts de paix. C'est ce qui a été avancé comme raison pour la fermeture de cette mission palestinienne. Est-ce que, d'après vous, ces raisons invoquées sont justifiées?
À mon avis, non. Plus important comme un ancien diplomate, pour moi, c'est les échanges, les discussions. Et à mon avis, il faut avoir ces discussions avant de prendre les décisions. Et ce que les États-Unis, le gouvernement américain a fait dans ce processus, c'était de prendre des décisions avant de résoudre la crise, avant d'avoir un résultat que les deux parties acceptent.
Alors, vous, puisque vous êtes un ancien diplomate, hein, peut-être est-ce que vous pourriez expliquer à quoi sert cette représentation palestinienne? Et quand on la ferme, est-ce que c'est juste symbolique ou est-ce que ça a vraiment des répercussions concrètes?
Bon, il y en a des aspects concrets et il y en a des aspects plus symboliques. Alors, en ce qui concerne des aspects concrets, on peut dire que le gouvernement palestinien ne va pas avoir une voix officielle ici à Washington. Ils ne vont pas avoir la même possibilité d'en avoir des réunions avec les membres du Congrès, les membres de l'administration. Alors, ils vont manquer cette représentation ici à Washington. Et aussi, en termes symboliques, c'est, si vous voulez, un manque de reconnaissance de la part du gouvernement américain des leaders palestiniens. Et à mon avis, c'est vraiment un pas derrière en ce qui concerne la résolution de cette crise.
Brett Bruen, je propose maintenant qu'on prenne la question, le commentaire d'un auditeur. Il s'agit de Martin Bidibois. Bonsoir, Martin.
Martin? Bonsoir, madame.
Alors, on vous écoute pour votre question ou votre commentaire.
Oui, moi, je me dis que le gouvernement des États-Unis reproche à tort les autorités palestiniennes. D'autant plus que les conflits israélo-palestiniens ont été d'une manière ou d'une autre soutenus par l'administration américaine. Madame, comment un pays catalyseur dans un conflit peut-il en même temps jouer le vrai rôle d'ancre d'un médiateur? Donc personnellement, je crois que les États-Unis continuent à jouer au même temps après la mort dans cet interminable conflit au Proche-Orient.
Alors, Brett, je ne sais pas si vous avez bien entendu la question, mais je peux quand même la résumer. Hein. Les États-Unis qui viennent de prendre une série de mesures plutôt, en tout cas qui ne vont pas dans le sens des autorités palestiniennes, et qui en même temps sont médiateurs. Est-ce que c'est possible? Peuvent-ils conserver cette position de médiateur?
À mon avis, les États-Unis, en ce moment, ne peuvent pas jouer ce rôle. Ils ont l'administration Trump, au moins, a montré leur préférence pour l'Israël. Et je crois que non seulement les leaders en Palestine, mais aussi ailleurs dans la région, vont pas accepter le gouvernement américain comme un parti indépendant. Les moyens, je crois que les États-Unis pourraient continuer à jouer un rôle important. C'est-à-dire, ils pourraient peut-être mettre plus de pression sur le gouvernement israélien. On n'a pas vu pour l'instant ces actions, mais on va voir dans les prochains mois après les élections législatives ici aux États-Unis s'il y en a un changement en ce qui concerne cette politique.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur les raisons évoquées par Washington, donc qui reproche donc aux dirigeants palestiniens de ne pas engager de négociations directes avec Israël et aussi de refuser de discuter avec le gouvernement américain. Comment comprendre ce refus de dialoguer de la part des autorités palestiniennes?
Bon, je crois que c'est une tactique qu'on utilise pour peut-être améliorer les conditions dans lesquelles on va négocier. Et la réalité pour les leaders palestiniens, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'options, beaucoup de façons par laquelle ils peuvent montrer leur pression, mais ils peuvent mettre leur présence sur quelque chose pour négocier, et c'est ce qu'ils ont fait.
Donc concrètement, l'OLP, d'une certaine façon, peut faire avancer la cause palestinienne en rompant le dialogue.
Oui, c'est ça. Et puis, on va voir, on a vu aussi ailleurs dans le monde, je prends l'exemple de Corée du Nord, du Mexique, où le gouvernement américain a changé rapidement de position après certains commentaires positifs de la part de leur gouvernement. Alors, nous ne sommes pas vraiment dans une diplomatie traditionnelle et il faut prendre en compte que pour l'administration Trump, d'un jour à l'autre, les choses peuvent se changer radicalement.
Alors, on va prendre un autre auditeur. Il s'agit de Hassan. Bonsoir Hassan.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs aussi. Bonsoir à votre invité.
C'est Hassan de Djibouti, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
D'accord. Alors, on vous écoute pour votre question, votre commentaire.
Moi, d'abord, je crois que cette décision américaine ou de l'administration Trump n'est pas étonnante parce que, vu le fonctionnement de l'administration Trump, c'est quelque chose qui pouvait être attendu de la part de Trump. Parce que Trump, c'est une politique et souvent qui est basée sur la radicale, sur le radical, si on peut dire, parce qu'il est en train de trouver des électorats de l'extrême droite, si on peut dire, ou de lobbyistes qui sont souvent il est souvent influencé. Mais l'administration palestinienne, elle aussi, doit faire des efforts, parce que si on stagne la discussion et le dialogue, rien ne fonctionnera. Et toujours, on sera dans l'impasse. Mais ce que j'aimerais demander à votre invité, c'est est-ce qu'un jour, de notre vivant, est-ce qu'un jour on peut s'attendre à qu'il y ait une paix durable et une paix possible entre Palestine et Israéliens, même sous l'influence américaine après l'administration Trump?
Alors, Brett, vous avez pu entendre la question?
Et je devrais dire que je suis toujours optimiste, même si pour l'instant, les choses sont assez difficiles en termes d'options positives en ce qui concerne une voie vers une résolution de cette crise. Mais à mon avis, il y en a aussi dans ces circonstances assez difficiles des possibilités pour une réflexion de côtés. Du côté israélien, du côté palestinien, et peut-être dans les prochaines années, on va retrouver des autres conditions dans lesquelles on peut recommencer les négociations.
Ce que vous dites, en fait, c'est qu'il faut presque toucher le fond ou être complètement acculé pour pouvoir trouver de nouvelles façons de fonctionner?
C'est ça. Et le gouvernement américain est allé vraiment à un extrême. Et je crois que cette action pourrait aussi avoir une contre-réponse. C'est-à-dire, dans les prochains mois, peut-être avec le Congrès et puis après avec une nouvelle administration, le gouvernement américain va jouer peut-être un rôle plus productif en ce qui concerne le gouvernement israélien. Peut-être on va apprendre de cette expérience qu'on ne peut pas accepter certaines choses que même dans les gouvernements d'Obama ou bien de Bush et Clinton, on a accepté, mais cette action d'aller assez loin dans la direction de l'Israël, à mon avis, représente quelque chose qui pourrait nous donner un moment de réflexion, un moment dans lequel on va prendre en compte quelles sont les conséquences de cette action.
C'est-à-dire quand vous dites on a accepté, qu'est-ce qui a été accepté et qui, selon vous, aurait dû être évité?
Par exemple, on a accepté la présence, la construction israélienne dans la zone palestinienne. On a accepté une certaine nombre de ces villages qui vraiment ont violé les normes internationales. Ils ont violé même des politiques américaines, mais on a dit on va pas vraiment mettre en question notre aide, on va pas vraiment mettre en question notre soutien pour le gouvernement, parce que nous avons ici aux États-Unis une politique qui représente une bonne majorité des intérêts du gouvernement israélien. Et en ce moment, nous sommes dans une situation où on va prendre une action qui pourrait avoir des conséquences pour non seulement notre influence en Israël, au Moyen-Orient, mais dans le monde. Je crois que c'est une question plutôt de notre crédibilité et notre influence. Et à cause de cette décision, le gouvernement américain ne va pas avoir le même niveau d'influence, le même niveau de crédibilité. Et c'est quelque chose qui va nous forcer à faire une réflexion.
Alors, quelles actions concrètement auraient pu être envisagées par les États-Unis, sachant que Israël est quand même un pays ami, un pays allié? Vous avez mentionné l'aide. Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir d'autre?
Oui, je crois que on peut conditionner notre aide. On peut faire plus de critiques sur certaines actions du gouvernement israélien. On peut aussi dire que nous allons prendre en compte les intérêts des autres alliés dans la région, parce que nous avons maintenant vraiment un manque de balance en ce qui concerne notre politique, non seulement dans la région, mais dans le monde. Et il y en a des membres du gouvernement de Trump qui disent on a la même politique avec Israël. Et bien sûr, il y en a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord. Mais on ne peut pas dire que le gouvernement israélien et le gouvernement américain partagent la même vision sur chaque question. Et je crois que c'est un point sur lequel on va avoir besoin de réconciliation.
Mais alors, si les États-Unis et Israël ne partagent pas forcément les mêmes positions, comment expliquer que les États-Unis n'aient pas eu des actions un peu plus volontaristes?
C'est-à-dire?
Eh bien, des actions un peu plus fortes et peut-être manifester son désaccord de façon plus marquée.
Bon, je crois que nous avons essayer de trouver une façon, un chemin par lequel on pourrait donner assez de soutien à Israël, mais en même temps, on a pris en compte les intérêts non seulement des Palestiniens, mais aussi nos propres intérêts dans la région. Mais à mon avis, la politique de accepter la position israélienne en ce qui concerne non seulement la question palestinienne, mais notre politique vers l'Iran, notre politique vers les autres pays de la région ne correspond pas
aux intérêts du gouvernement américain. Et nous avons, en ce moment-ci, une politique qui est trop influencée par cette optique de ce que nous faisons pour l'Israël. Au lieu de dire quels sont les intérêts plus grands pour notre pays et comment est-ce qu'on pourrait on pourrait trouver une balance entre ce que nous devrions faire pour l'Israël et ce que nous devrions faire pour nous-mêmes.
Alors j'aimerais qu'on rebondisse sur ce que Hassan, notre auditeur, nous disait tout à l'heure. Il disait que cette politique américaine est aussi largement dictée par des considérations domestiques, des considérations électorales. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Bon, je crois qu'il y en a plusieurs aspects. On peut dire que l'Israël, c'est une démocratie, c'est un pays qui partage beaucoup des mêmes valeurs que les États-Unis. Mais en même temps, il y en a aussi des intérêts domestiques pour donner plus de soutien à l'Israël. Et à cause de ça, je crois que nous avons une politique qui manque cette balance, qui manque un certain niveau de perspective. Alors, il faut, après cette période d'avoir une politique assez extrême, entrer dans les réévaluations de ce que nous faisons, non seulement en Israël, mais dans la région et le monde entier.
Ok. Alors, on va prendre un auditeur, probablement le dernier. Il s'agit de Oscar Djossou. Bonsoir, Oscar.
Bonsoir, madame.
Alors, écoutez, on vous attend pour votre question, votre commentaire, assez rapidement, parce que l'émission touche à sa fin.
Bonsoir à votre invité et bonsoir à tous les auditeurs.
Oh là là, on vous entend très très mal, monsieur. Je ne sais pas si vous pouvez parler plus fort. Ok, je suis désolée, Oscar. On va plutôt prendre Alphonse Mouaki. Bonsoir, Alphonse.
Bonsoir, Morgan.
Voilà, alors vous, on vous entend bien. On vous attend pour votre question ou votre commentaire.
Vous savez, Morgan, les États-Unis ont perdu leur crédibilité. D'autant plus qu'ils ont manifesté, ils ont affiché manifestement leur position tendancieuse ou partisane en faveur d'Israël. Et de ce fait, ils ne peuvent pas se constituer un médiateur crédible. Donc l'arbitrage des États-Unis a déçu la Palestine. C'est pourquoi il y a ces tensions. Donc je pense que les conséquences dans le processus de paix, c'est la rupture. Hein. Ça commence à la rupture entre Washington et l'autorité palestinienne. Ce ne sont pas les États-Unis, c'est l'administration Trump. L'administration Trump est vraiment partiel dans son arbitrage. Et donc, et cela a provoqué comme conséquence les règles de violence entre la Palestine et entre la Palestine et l'Israël. Donc, je pense que Trump doit essayer vraiment de réfléchir s'il veut mener à bien ces négociations comme médiateur. Barack Obama a été un peu différent de lui, Trump. Mais comme disait l'un des auditeurs, il est tenté d'envisager d'envisager les élections prochaines. Mais je pense qu'il joue très mal, monsieur Trump, par rapport à cette question, parce que cette question est de portée internationale. Et donc, je crois que Trump doit réagir s'il veut vraiment qu'il réussisse comme médiateur. Mais je pense maintenant qu'il est déjà disqualifié par la Palestine comme étant médiateur. Donc, je pense que c'est l'impasse qui prévaut maintenant entre Israël et... Les négociations sont au point mort.
L'impasse qui prévaut. Alphonse, l'émission touche à sa fin, hein, mais on a bien entendu votre mot de la fin, hein, l'impasse. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, Brett Bruen, d'avoir été des nôtres et votre analyse. Merci à tous les auditeurs. À la production, on avait Michel Joseph, Morgane Guiriec au micro. À bientôt.